Le grand entretien avec ce matin le réalisateur Arnaud Desplechin. Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour.
Mercredi sort en salle donc Roubaix, Une Lumière, c'est votre 13e film, il était en sélection à Cannes. Roubaix, Une Lumière raconte l'histoire, hein, je le dis brièvement, d'un commissariat de Roubaix avec ses policiers, le commissaire Daoud incarné par Roche Dizem et le jeune lieutenant Louis joué par Antoine Reinhardt qui découvre le commissariat et Roubaix. L'histoire, on peut le dire aussi, s'inspire d'un fait divers qui s'est passé dans le Nord en 2002. Corrigez-moi si je me trompe, on est d'accord.
C'est toujours ça, d'accord.
C'est tout à fait ça. Avec le meurtre d'une vieille dame dans lequel sont impliquées deux jeunes femmes à la dérive, interprétées ici par Léa Seydoux et Sarah Forestier. Arnaud Desplechin, vous explorez toujours l'humanité dans vos films, mais cette fois-ci, vous y accolez un nouveau genre, le polar.
Oui, c'est pas seulement un nouveau genre. C'est vrai que j'ai fait des films qui sont dont j'aimais penser qu'ils débordaient de fiction. Et là, j'ai eu envie de faire un film où tout soit basé sur des faits vrais, où tout vienne de la vérité, de documentaires, de faits divers, qui était un fait divers que mes parents m'avaient raconté, mes parents qui habitent toujours à Roubaix, qui avaient fait grand bruit là-bas, et c'est tous ces gens qui vivent, et de raconter la vie d'une institution, de raconter la vie d'un commissariat avec des trajets un peu fracassés qui viennent se cogner, si vous voulez, sur cette dernière institution comme ça qui fonctionne dans une ville qui va à la dérive. Ça me passionnait. Et du coup, j'ai embrassé ça. C'était encore plus merveilleux parce que vous voyez, il y a ces quatre acteurs qui sont splendides. Enfin, la performance de Roche Dizem, c'était une bénédiction pour moi. Les deux filles sont incroyables. Mais tous les autres rôles sont joués par des Roubaisiens. C'est-à-dire, les policiers sont joués par des policiers, les mauvais garçons par des jeunes gens de Roubaix, les jeunes femmes rebelles par des jeunes femmes rebelles de Roubaix. Et donc, il y avait ce mélange entre acteurs naturels et acteurs savants qui était passionnant à filmer.
Alors, comment on fait pour mixer les deux, parce qu'effectivement
ce que je demandais, c'était aux acteurs savants, puisque c'est leur métier d'être acteur, de respecter le texte à la lettre, à la virgule, vous voyez, de dire mais voilà, c'est comme ça que ça a été dit, donc c'est comme ça qu'il faut que vous restituiez les personnages avec votre art. Et puis alors les autres, je leur disais, vous êtes policier, vous êtes pas du tout acteur, donc surtout si vous dites mon texte, vous êtes puni, on refait une prise. C'est-à-dire, il faut le dire à votre façon, faut pas le dire comme j'ai écrit, faut le dire comme vous feriez dans la vie. Et la danse s'est produite, si vous voulez, entre les acteurs savants qui aimaient bien improviser comme ça avec les acteurs naturels. Et les acteurs naturels, eux, ils étaient en impro total tout le temps. Et pendant ce temps-là, les acteurs savants, eux, les ramenaient un petit peu dans le chemin du récit en respectant le texte.
Et comment, parce qu'effectivement, on est dans un temps long. Alors du coup, on coupe. À quel moment on dit couper, c'est bon?
Quand je suis ému. Vous voyez, quand ils ont réussi à m'émouvoir, quand ils ont réussi à donner quelque chose, quand eux-mêmes sont surpris de leur interprétation, qu'ils se disent, bah pas mal, j'étais quand même pas mal, quoi. Je me dis, ça y est, on a quelque chose qui divertira les spectateurs.
Dans Roubaix, Une Lumière, il y a aussi une manière de filmer, et vous l'avez suggéré au tout début du grand entretien, Arnaud Desplechin, c'est vraiment le côté documentaire. Vous filmez comme si on était dans un documentaire.
Oui, je vous disais, au départ du projet, j'avais vraiment l'idée de mettre la fiction à la porte et de vraiment de me baser que je pense comme ça. L'action est très resserrée, hein, ça se passe entre la nuit de Noël et le Nouvel An, quoi. C'est en quelques jours d'hiver comme ça à Roubaix, et de suivre tous ces cas. Alors il y a plusieurs cas. Il y a le cas de cette femme assassinée dans une courée, mais il y a d'autres cas. Il y a une famille qui se dispute à Noël, il y a une jeune fille fugueuse, il y a des trucs. D'avoir une approche très documentaire, et la fiction, si vous voulez, est revenu par les acteurs.
Et ça oblige à accélérer le rythme, du coup ?
Ah oui, c'était ça aussi le plaisir, c'est de faire un film ramassé, vous voyez, un film de genre, donc de ramasser, de venir frapper le spectateur, c'était une partie du plaisir, bien sûr.
Vous êtes souvent dans vos films à Roubaix, ouais. C'est la première fois que vous mettez Roubaix dans le titre ?
Oui, c'est là c'est vraiment un hommage à la ville qui est une ville paradoxale, hein, qui est une ville compliquée, qui est une ville que je connais bien, et qui est une ville où il y a des choses qui sont magiques, qui sont merveilleuses. Il y a le musée par exemple que tout le monde connaît, la piscine, etc. Il y a un côté de Roubaix brillant, mais là on est dans les institutions où c'est vraiment les gens démunis. Donc c'est un Roubaix que je connaissais moins bien, que j'ai jamais filmé. Moi souvent j'ai filmé des histoires, comme je disais, un peu romanesques, de fiction, avec avec des gens plutôt protégés, plutôt des personnages d'intellectuels ou de bourgeois sans argent, quoi. Vous voyez, des familles un peu comme ça. Et alors là, tout d'un coup, c'est fini. Là, si vous voulez, c'est la vie dans ce qu'elle a de plus nu et de plus brutal, quoi. C'est ça, le commissariat. C'est vous arrivez là quand vous n'avez plus rien, quand il n'y a plus d'autres institutions. Il reste deux institutions qui marchent, la CAF et le commissariat. Alors la CAF, je trouvais que ça faisait moins fiction et un commissariat, je trouvais que ça faisait plus polar, donc c'était mieux pour l'histoire.
On va y venir au commissariat. Mmh. Il représente quoi pour vous, Arnaud Desplechin ?
Pour moi, c'est...
Est-ce que c'est un confessionnal, comme le dit Roche Dizem dans une interview que j'ai pu lire par ailleurs?
C'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup dans le personnage du commissaire, c'est que c'est pas un juge. Il se met pas au-dessus des gens, il se met à égalité avec les gens. Il y a une scène comme ça au début du film, donc je déflore pas l'intrigue, où le jeune lieutenant lui dit, mais alors vous savez toujours si un suspect est coupable ou innocent? Et Roche dit, un pas vide, répond, oui, évidemment, bien sûr, je sais toujours si quelqu'un est coupable ou innocent. Et il dit, mais vous faites comment? Il dit, je pense comme eux. Et vous voyez, c'est ce truc, c'est des gens, c'est des Roubaisiens, ils pensent comme eux. Alors cette institution-là, elle permet, je crois que c'est le mouvement du film, c'est qu'il y a peu à peu, on se resserre autour de Léa Seydoux et de Sarah Forestier, et on se dit, est-ce qu'elles ont fait quelque chose d'inhumain ? Et lui, le commissaire, par la parole, il va ramener ces femmes qui ont peut-être fait quelque chose d'inhumain dans le champ de l'humain. C'est de dire, rien n'est inhumain. Vous voyez, toutes les choses les pires, vos pires appréhensions, moi qui suis très peureux dans la vie, ce qui me terrifie, mais c'est toujours bêtement humain. Et ça, c'est de ramener, vous voyez, des gens qui ont passé les limites et de les ramener en disant, ben voilà, c'est pas forcément très malin ce que t'as fait, c'est pas forcément très gentil, mais c'est pathétiquement humain. Et ça, c'est ça qui me plaisait dans ce travail de flic que j'essayais de filmer.
Là, il y a vraiment, on a les vrais flics, vous l'avez dit, et ouais. les flics acteurs. Ouais. Roche Dizem, là-dedans, on le voit jamais dans ce film-là hausser la voix. Ça a été aussi une des manières de diriger, de dire que voilà, on peut être flic sans hausser la voix, parce que les autres haussent la voix.
Oui, lui, c'est drôle, il y a une scène où Roche dit, mais pas du tout, il hausse la voix une fois parce que la fille Sarah Forestier le rend dingue à force de nier tout, etc. Il hausse la voix et tout de suite après, il a honte. Il dit, bon, ben, on va se calmer. C'est pas du tout son truc. C'est vrai que souvent, on a donné à Roche dit des rôles un petit peu renfermés, ou plutôt brutaux, ou plutôt sombres, et tout ça. Et moi, j'avais envie de filmer de chez lui une lumière que je voyais, la lumière du titre, et un sourire. Et je me souviens, c'est la première conversation que j'ai eue quand je lui ai proposé le film. Je lui ai dit, ben voilà, on ne voit pas souvent sourire au cinéma, et j'aimerais bien que Daoud sourie, le commissaire, il sourit. Et alors je lui disais, je ne suis pas acteur, donc je ne sais pas pourquoi il sourit, alors que la vie qu'il mène n'est pas facile. On voit que c'est un personnage très solitaire, et qui se confronte à des cas très très violents, comme ça. Et pourtant, il a cette humanité, cette compassion, cette empathie avec tous les gens qu'il rencontre, que ce soit des victimes ou des coupables, il a cette compassion. Et je disais, bah toi, tu sauras pourquoi tu souris, c'est toi, en toi, acteur, que tu dois trouver la raison de ce sourire. Il a un sourire de chat, une douceur dans sa façon d'approcher, et peu à peu, comme vous disiez, il accouche les âmes, quoi. Il les fait venir à la parole, que ce soit, je vous dis, des suspects ou des victimes. Je pense à la jeune fille comme ça, il rencontre Madison, la jeune fille violée, tout ça, puis il a une façon de parler, et tout d'un coup, les gens se sentent mieux avec cette douceur, cette tendresse, pas cette tendresse, parce qu'il est jamais familier, c'est un personnage qui est jamais familier, mais il a une extrême écoute, comme ça, de chaque interlocuteur qu'il rencontre.
Et il y a en face de lui, Antoine Reynard.
Oui.
Qui vous ressemble étrangement plus jeune.
Oui, Antoine Reynard, c'est le narrateur. Alors il y a un narrateur du film, comme c'est une ville c'est pas une grande ville, donc ça me plaisait qu'il y ait un narrateur qui connaît pas, qui est un type qui vient de la campagne à côté de Grenoble, qui est le lieutenant Louis Cottrel, et il arrive à Roubaix, il débarque, c'est sa première nuit, c'est la nuit de Noël, et la ville brûle, il y a des bagarres de partout, etc., machin, et il dit putain, c'est vivant ici quand même. Et alors il est le narrateur. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas le héros. Vous voyez, le héros, c'est Daoud, c'est Roche Dizem, et lui ne sera que le narrateur. Et ça me plaisait de rentrer dans le film, et moi de m'identifier au personnage d'Antoine Reynard, où mon travail est juste d'être le narrateur, mais m'identifier à Roche Dizem, j'en suis pas capable. Vous voyez, je vois qu'il est beaucoup plus grand que moi, il a beaucoup plus la classe que moi, donc je préfère un rôle plus modeste, le rôle du narrateur.
Mais pourquoi ce besoin d'identification ?
Parce que c'est comme ça que je regarde les films quand je suis spectateur. Je sais pas faire grand chose, mais il y a un truc que je sais faire, c'est me mettre devant un film et m'identifier maladivement au personnage. Ça, je sais le faire.
Et même sur un tournage?
Ah, sur un tournage, bien sûr, bien sûr. J'ai besoin que ce qui arrive au personnage m'arrive à moi. C'est là où vous me disiez quand est-ce que je m'arrête. Vous voyez, c'est quand tout d'un coup je comprends et je me dis, ben voilà, j'aurais fait pareil qu'eux. Je comprends le sentiment qui les traverse. Je retrouve des sentiments que moi-même j'ai traversés, même si j'ai une vie différente. C'est cette façon de m'identifier. Je vous parlais de Sarah Forestier ou Léa Seydoux. C'est à un moment, je reconnais en elles deux sœurs. Et c'est terrible parce que ce qu'elles ont fait est terrible. Et pourtant, je vois en elles deux sœurs. Je peux plus me décoller de voilà. Alors à ce moment-là, on a la bonne prise, quoi. Vous voyez, c'est là où je me reconnais, alors que c'est une vie, elles ont des vies fracassées et que ma vie était bien plus protégée, mais je me reconnais.
On y vient. Léa Seydoux, Sarah Forestier sont donc les deux jeunes femmes qui sont impliquées dans le meurtre d'une vieille dame. Il y a ce qu'elles disent dans les murs du commissariat lors de leur interrogatoire. Moi, ce qui m'a fascinée dans votre film, c'est la manière dont vous filmiez leur visage. Il y a un mouvement qui, à un moment, exprime une descente, la mise en abîme.
Oui, c'est très curieux parce que est-ce qu'elle s'effondre? Elle s'effondre, je pense par exemple au personnage de Léa Seydoux qui tient tête, il y en a une qui est plus démunie, qui est Sarah Forestier, et elle parle tout de suite, elle raconte sa vie, elle donne tout, elle essaie d'être la bonne, elle qui a été mauvaise élève toute sa vie, elle essaie d'être... Et alors, il y a l'autre, Léa Seydoux, elle tient tête à la police, et elle s'effondre. Et elle remonte en selle, elle tient tête à nouveau, elle s'effondre. Et ce mouvement comme ça, un peu royal, ce mouvement de princesse, de tenir tête et de s'effondrer, sans cesse répété, j'avais compté une fois au montage, je voyais Léa Seydoux s'est effondrée 7 fois dans le film. Et pourtant, à chaque fois, elle remonte. Alors je me disais, il y a une noblesse, elle me faisait penser à un personnage que j'aime beaucoup, qui est Tess d'Urbanville, qui était joué par Nastassia Kinski dans le film de Polanski, et comme ça, et qui a un désir d'échafaud. Vous voyez, elle a un désir de grandeur, elle se dit, je suis une reine et je vais être, on va me couper la tête. Alors, il y a ce mouvement qui est bouleversant et elles sont un peu à la conquête d'elles-mêmes. Je crois que dans ce qu'elles ont fait, c'est comme une hallucination. Et vous voyez, elles savent même plus ce qu'elles ont fait, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est, à un moment, le commissaire Daoud dit, mais ça a duré combien de temps cette histoire? Et puis, il y a Sarah Forestier qui dit, oh là, 5 minutes, 20 minutes, je sais plus. Et peu à peu, en parlant, elles vont se récupérer. Vous voyez, et ces deux femmes, c'est un couple, hein, elles vivent en couple. Et ces deux femmes qui ne savent pas s'aimer, à la fin du film, elles terminent comme un couple. Vous voyez, donc elles se récupèrent. En même temps, elles s'abandonnent et en même temps, elles se récupèrent. Ce serait un peu le paradoxe qu'on a essayé de jouer avec les actrices.
Arnaud Desplechin est l'invité du Grand Entretien ce matin sur France Inter pour son film Roubaix, une lumière qui sort mercredi en salle. Cette question de Nathan sur franceinter.fr, est-ce que vous avez travaillé avec la police judiciaire pour préparer ce film?
On a travaillé pas avec la police judiciaire, avec la police. Si vous voulez, moi, je me tiens quand j'écris, je travaille toujours. Je me tiens à grande distance de la réalité. Vous voyez, pour pouvoir. Donc moi, si je relisais Crimes et châtiments de Dostoïevski en boucle, vous voyez, je me disais voilà, moi, il faut de l'imagination. Il faut que je ramène de l'imagination, du roman. Et par contre, j'avais un ami, Alexandre Nazarian, qui faisait tout le travail documentaire. Et comme pendant le tournage, on avait tous les flics qui étaient là, ils nous disaient bah non, ça on fait pas comme ça, ça on fait pas comme ci. Alors du coup, on s'adaptait, si vous voulez, en fonction, et c'était eux qui n'arrêtaient pas de nous aider. Et bien sûr, il y a 2 policiers qui nous ont aidés, qui ont corrigé tous les dialogues, qui ont corrigé toute la procédure. Ah bien sûr, oui. Tout est exact, quoi. En plus, il y a les problèmes judiciaires un peu compliqués, parce que le code de la police a changé sous Sarkozy, puis il a changé sous Hollande et tout ça. Donc il fallait moderniser l'action, puisque le fait divers... Alors donc chaque flic venant, vous voyez, suivant son âge, modifiait différemment en fonction des réformes de police.
Quand on voit vos films, Arnaud Desplechin, et surtout quand on les écoute, il y a une forme de musique dans vos dialogues, une écriture. Je pense à Roi et Reine, par exemple. Ici, c'est vraiment plus brut.
Oui, c'était ce désir de brutalité que j'avais. C'est peut-être en regardant le monde, c'est aussi en regardant le cinéma tel qu'il se fait en France, mais pas seulement en France, où il y a de plus en plus un peu un genre de cinéma social ou politique ou qui regarde la société. C'est vrai que la société est toujours quelque chose qui me fait un peu peur. J'aime bien. Il y avait un mot d'un critique de cinéma que j'admirais beaucoup, qui était Serge Danet, qui disait je préfère le monde monde, à la société. Alors moi, j'ai essayé de faire des films monde plutôt que de faire des films sociaux. Mais ça me tenait à cœur d'embrasser un film plus brutal que ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, d'être au cœur du drame et pas. C'est ma première tragédie. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de mélodrames, mais j'avais jamais fait de tragédie. Ben là, c'est ma première tragédie.
Et d'où cette question d'Anaïs qui tombe à point nommé sur franceinter.fr. Quels sont vos prochains projets? Parce qu'une fois que vous avez fait les mélodrames, vous avez fait le polar, la tragédie, vous allez où?
Le prochain projet, j'en parle avec un tremblement d'émotion dans la voix, c'est je vais retrouver la Comédie Française pour une pièce de théâtre dont nous commençons les répétitions à partir d'octobre, du mois d'octobre.
Donc vous allez au théâtre, vous laissez la caméra de côté?
Oh, je la laisse de côté, vous savez, le soir, le théâtre, les répétitions me laissent le temps de travailler à un prochain projet. Je sais pas, parce que j'ai besoin des spectateurs. Pour savoir mon prochain film, j'ai besoin que le film soit en salle. Vous voyez, on n'est pas encore mercredi, j'ai besoin d'aller en salle, de rencontrer les spectateurs, de voir, et c'est eux qui m'enseignent, vous voyez, le film que je ferai après. Vous parliez de la brutalité de Roubaix une lumière, mon film précédent, Les fantômes d'Ismaël, c'était une débauche de fiction. Alors j'ai montré cette débauche de fiction, j'ai écouté les spectateurs, je me disais, ah la vache, ce serait super de faire un film où il n'y ait plus aucune fiction, où ce soit que du documentaire. Vous voyez, et du coup, c'est de ce dialogue avec les spectateurs qui m'apprend le film suivant que je ferai.
Arnaud Desplechin, vous dites que vous allez aller à la Comédie Française. Comment oui. Est-ce qu'on dirige de la même manière des acteurs sur scène que dans un film?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Et parce que c'est Rushdie qui racontait, je fais le clown, vous voyez, sur les plateaux de cinéma. Je fais l'andouille, je joue tous les rôles, j'essaie de les divertir. Je me dis, si les acteurs s'amusent à être drôle ou s'amusent à être malheureux, hein. Mais si les acteurs s'amusent, les spectateurs vont s'amuser en regardant les acteurs. Donc je fais n'importe quoi pour les divertir. Et alors par contre, au théâtre, comme les acteurs à un moment vont devoir jouer seuls, je peux pas jouer leur rôle devant eux, vous voyez, parce que ça les aiderait pas. Donc c'est le type de dialogue est complètement différent. J'ai eu la chance de le faire une fois, déjà à la Comédie Française, c'était sur un Strindberg, et j'ai appris infiniment de choses avec ça, qui me servent pour le cinéma.
Oui, il y a des passerelles.
Il y a des passerelles, mais c'est pas le même art. C'est vraiment profondément pas le même art.
Vous avez toujours autant de mal à vous dire réalisateur ?
Ouais, je préfère fabricant de films.
Vous gardez vraiment l'idée de fabricant de films. Pourquoi c'est si difficile de dire que vous êtes réalisateur ?
Ben, pour un réalisateur, est-ce que je réalise vraiment ce que je fais? Vous voyez, je sais pas si ce que je réalise. Vous voyez, je commence un film avec des questions, je commence pas un film avec des réponses. J'aime pas apporter des réponses, j'aime bien poser des questions, c'est les spectateurs qui donnent des réponses. Alors, réalisateur, puis c'est tellement un rêve de gosse pour moi, vous voyez. Puis je me souviens tellement vivement de quand je voulais faire ce métier, c'est pas un métier. Et, j'avais 7-8 ans. Vous voyez, et alors je regardais sur les génériques très attentivement, puis je voyais directed by, produced by, réalisé, un film 2. Je me disais, mais qui, il y a combien de gens qui font un film? Je savais pas du tout ce que c'était. Donc je savais pas très bien comment on disait, mais je savais que je voulais faire ça. Je voulais aller à Paris, pas être devant la caméra, mais derrière, et fabriquer. Alors je savais pas, alors quand j'étais très petit, je disais truckman, et après quand j'étais un peu plus grand, j'ai dit fabricant de films. Et ça me suffit.
Et puis vous êtes allé à l'IDEC qui est devenue la FEMIS depuis. Ouais. Est-ce qu'on apprend vraiment le cinéma à l'école ?
Moi, je l'ai pas appris à l'école. Moi, je l'ai pas appris à l'école. Je suis sorti de l'école de cinéma, heureusement, hein, parce que ça a vraiment changé ma vie. Je vois beaucoup à cette école. C'est surtout la rencontre d'amis qui partageaient ma passion. Je pense à Éric Rochant ou à Pascal Ferrand, dont j'ai été très proche, dont je suis toujours très proche. Et c'est les autres étudiants qui m'ont appris quelque chose. Et dans l'école, j'ai eu l'impression que j'arrivais pas à rentrer dans la question du cinéma. Et c'est plus tard, en travaillant comme technicien, j'ai beaucoup travaillé à tous les petits métiers techniques et en lisant beaucoup, en voyant beaucoup de films, que j'ai l'impression que j'ai fait ma formation de réalisateur, je ne la dois qu'à moi-même et à un ami. Je pense à un ami, Pierre Amzalai, qui était un ami plus jeune que moi et qui m'a appris le cinéma. Et c'est comme ça que je l'ai appris.
Alors, c'est vrai pour vous, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai pour tout le monde ?
Je crois qu'il y a quelque chose de canaille dans le cinéma. C'est un art populaire et c'est un art pour les enfants. Il y a quelque chose qui peut pas s'apprendre dans les écoles. Peut-être vous pouvez apprendre le théâtre, par exemple. Je pense que le conservatoire est une école admirable et je pense que vous pouvez apprendre mille choses. Mais il y a un côté canaille qui s'explique pas. C'est un art de la rue, c'est un art forain, le cinéma. Alors évidemment, il y a plutôt des films d'auteur, des films, etc. Vous pouvez faire les genres et tout. Mais dans le fond, le cinéma, ça reste toujours un film, un truc qui a été inventé pour les foires, pour les gens qui savent pas lire, qui est un loisir populaire. Et c'est ça qui est admirable dedans. Et ça, vous l'apprenez dans la rue, vous l'apprenez pas dans une école.
Vous avez réalisé 13 films, Arnaud Desplechin. Est-ce que vous êtes comme un artiste, un peintre, un photographe? Est-ce que vous construisez une œuvre au fil du temps?
J'oserais pas le dire, mais je le pense un tout petit peu. Parce qu'il y a des rimes d'un film à l'autre, vous voyez. C'est ce dialogue avec les spectateurs, ce dialogue que je peux avoir avec moi-même. Il y a un petit peu des rimes, des choses qui se renvoient, qui se parlent, etc. Alors, peu à peu, ça commence à... Vous voyez, il va y avoir la semaine suivante, le 28, commence une rétrospective à la Cinémathèque. Alors ça me terrifie, parce que la Cinémathèque, vous voyez, étant provinciale, la Cinémathèque française à Paris, mon Dieu, c'est un lieu qui me terrifie. En même temps, je suis super honoré, vous voyez, vraiment, je bénis Frédéric Bonneau qui fasse cette rétrospective. Alors je me dis, s'il y a rétrospective, c'est peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai fait une œuvre, j'en sais rien, moi.
Oui, mais en même temps, vous y travaillez.
Ben, j'aime bien penser à ce qui est des rimes, vous voyez, vous me demandiez mes prochains projets, je commence déjà à travailler sur la suite, et je pense à des rimes, je pense par exemple, tiens, faut pas que je refasse ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà raconté aux gens, faudrait faire une variante, mais faut être fidèle en même temps, faut pas non plus renier les films qu'on a fait, faut surprendre le spectateur, comme j'espère avoir surpris les spectateurs avec Roubaix, vous voyez, donc il y a un mélange de fidélité, de devoir de surprise, qui fait que, c'est peut-être ça une œuvre, c'est comment faire pour étonner les spectateurs à chaque fois et en même temps tendre la main au film précédent qu'on a fait.
Vous avez dit, je ne sais pas faire des films pour tout le monde, je fais des films pour n'importe qui.
Oui, ça c'est très important pour moi, très important pour moi. Est-ce que j'aurais désiré faire des films pour tout le monde? Je sais pas. J'aime beaucoup les films pour tout le monde. J'aime beaucoup le cinéma populaire.
Vous êtes très cinéphile.
Oui, je suis très cinéphile. J'ai un grand orgueil. Vous voyez, par exemple, j'ai fait des films qui étaient plus populaires ou qui ont rencontré plus de succès. Vous parliez de Droits et Reines. J'ai fait des films plus secrets, un peu plus d'auteur. Par exemple, comme Esther Kahn. Et je me souviens avec une telle émotion. Vous voyez, un jour en province, une spectatrice qui était arrivée, elle avait 15 ans. Elle me disait, j'ai vu Esther Kahn à la télé, ça a changé ma vie. Et je me disais, Arnaud, tu as fait ton travail. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas fait un film, Esther Kahn n'était pas un succès, j'ai pas fait un film pour tout le monde, mais pour n'importe qui.
Merci beaucoup Arnaud Desplechin d'avoir été l'invité du Grand Entretien ce matin sur France Inter. Allez voir Roubaix, une lumière, le film sort en salle mercredi. Merci beaucoup Arnaud Desplechin.
Merci Laetitia.